Les dessous de l'Infox. François Bernard.
Bonsoir. Les attentats du 11 septembre 2001 semblent donner le départ à la prolifération de l'Infox et à deux visions géopolitiques antagonistes. Il y a ceux qui pensent que la sécurité impose des politiques adaptées au contexte des différents pays et ceux qui estiment que les droits de l'homme sont valables pour tous et doivent dicter la marche à suivre en matière de relations internationales.
Les dessous de l'Infox.
La polarisation du débat public, ses raisons et ses conséquences. On en parlera avec Marie Pelletier, essayiste, dont le dernier livre a pour titre « Obsession, dans les coulisses du récit complotiste ». C'est aux éditions Inculte. La photo d'une route en mauvais état, censée montrer l'état des voies au Cameroun, faux. Monique Ngomayag a retrouvé la photo. Elle a été prise au Niger. Mais tout de suite, notre chronique. Bonsoir Sophie Malibaud.
Bonsoir François.
Alors à force de mensonges et de manipulations sur Internet, l'AfD, Alternative für Deutschland, connaît un essor jamais vu pour un parti d'extrême droite en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale, au point de susciter l'inquiétude de ceux qui, au sein de la CDU, considèrent que l'influence grandissante de ce parti est indirectement responsable de la montée de la violence raciste, comme en témoigne le meurtre de Walter Lübcke, cet élu local assassiné pour avoir pris parti en faveur de l'accueil des migrants. À la suite de l'arrestation d'un néo-nazi allemand qui a avoué le meurtre ce mercredi, le ministre de l'Intérieur a promis des mesures pour lutter contre la droite radicale. Il faut dire, Sophie, que le phénomène est hors de contrôle sur Internet.
Oui, alors Facebook est parfois utilisé comme un formidable accélérateur d'infox et l'AFD apparaît comme un champion hors pair dans ce domaine, ayant d'abord remporté un record de vitesse. Ce parti d'extrême droite, Alternative pour l'Allemagne, fondé en février 2013, donc il y a à peine plus de 6 ans, est rapidement devenu le mouvement politique allemand dont les posts sont les plus partagés sur Facebook. 85% des postes partagés émanent de ce parti, les autres se partagent les 15% restants. Or, ce que l'on appelle un partage sur Facebook, c'est pas anodin. Les internautes qui partagent un texte, une citation, une vidéo ou une photo avec leurs amis sur Facebook assurent une diffusion croissante du document en question. Or, les grandes formations politiques traditionnelles allemandes, le SPD, CDU, CSU et même les Verts, ne comptent chacune pas plus de 2 à 3% des partages sur Facebook. Alors certes, les électeurs ne s'informent pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais de plus en plus. Et la tendance observée inquiète les grands médias allemands qui s'en font l'écho sans parvenir à l'enrayer, cette tendance. Facebook devient ainsi le miroir déformant de la politique en Allemagne.
Et comment l'AFD parvient-elle à ce résultat?
Eh bien, ce sont des méthodes de manipulation classiques, mais leur accumulation n'en est pas moins dangereuse pour la démocratie. Le mouvement citoyen en ligne Avaaz s'intéresse de près à ce phénomène. Avaaz a publié une enquête sur les réseaux sociaux et sur l'extrême droite en Europe, et pas seulement en Allemagne, évoquant les réseaux de l'imposture, entre guillemets. Christophe Schott, directeur de campagne pour Avaaz, nous en dit plus.
Ce que nous avons trouvé, c'est que pour arriver à ces résultats, il y a création de nombreux faux comptes, des comptes qui n'ont rien d'authentique. De cette façon, certains partages sont authentiques, mais de nombreux partages sont faits à partir de comptes fictifs ou de comptes dupliqués et postés sur le réseau à travers l'Allemagne et dans le reste du monde.
Et plus les informations sont fausses, choquantes et spectaculaires, plus elles sont partagées. Le thème de prédilection, ce sont les migrants et la propagation de contenus islamophobes. Exemple, un élu de l'AFD qui relaye une fausse citation de Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, prônant les migrations massives de musulmans pour éradiquer les États monoculturels. Jamais de tels propos n'ont été tenus, François, mais ils sont massivement relayés par les sympathisants de l'AFD. Les vrais et les faux. Au fond, le problème, c'est que le faux a tendance à faire plus de clics que le vrai, et du coup, les partis les plus radicaux sont plus à l'aise avec ça. L'AFD est un exemple, mais Avaaz a constaté les mêmes penchants ailleurs en Europe, nous dit Christophe Schott.
Dans tous les grands pays d'Europe, les partis d'extrême droite ont beaucoup plus de succès sur Facebook et sur les réseaux sociaux que les autres partis. En fait, ils sont en train de se créer leur propre environnement médiatique pour communiquer en direction de leurs sympathisants en évitant les autres types de médias existants, et ils font ainsi passer leur message au reste du monde, ce qui leur garantit un certain succès en ligne et aussi dans le monde réel.
Bon, est-ce que Facebook a pris la mesure du problème ?
Apparemment non. Un chercheur américain du nom de Trevor Davis, chercheur à l'université de Georgetown, a passé 3 mois à traquer les infox émanant de l'AFD, juste ce parti, avant les élections européennes. Il a détecté quelque 200 000 comptes suspects. Or, seuls 500 de ces comptes ont été suspendus par Facebook. En fait, Facebook se targue d'avoir supprimé plus de 2 milliards de comptes fictifs rien que les 3 premiers mois de cette année. Mais il semblerait que le rythme de création de nouveaux comptes artificiels ne cesse malgré tout d'augmenter.
Merci Sophie Malibaud. On se retrouve en septembre prochain. Les fausses informations circulent facilement dans nos sociétés divisées où les élites sont tenues pour responsables des crises et accusées de cacher la vérité pour mieux dominer. Ces fausses informations ont pour objectif de donner du crédit à des hypothèses qui s'affirment alors comme des vérités et à discréditer ceux qui s'attachent à la réalité des faits. L'infox est-elle devenue l'arme favorite des complotistes en tout genre ?
On en parle.
On en parle avec Marie Pelletier qui est essayiste, dont le dernier livre a pour titre « Obsession, dans les coulisses » du récit complotiste aux éditions Inculte. Elle nous rejoint en ligne de Bruxelles. Bonsoir Marie Pelletier.
Bonsoir.
Alors, comment selon vous s'est développé ce sentiment éprouvé par une partie de la population qu'on lui ment, qu'on lui cache des choses ? Pourquoi tant de doutes et de défiance selon vous ?
Alors, je pense qu'il y a deux choses qui expliquent ce doute et cette défiance. D'abord, c'est qu'on est dans une phase au niveau historique un petit peu de désenchantement à l'égard de ce qui avait structuré en quelque sorte l'imaginaire collectif dans l'après-deuxième guerre mondiale. On a un peu l'impression que la démocratie et ses promesses n'est pas vraiment à la hauteur justement de tout ce qu'on en avait attendu. Donc il y a une déception, mais surtout ce qui est important à dire, c'est que ce désaveu, il y a eu depuis une vingtaine d'années des discours de désinformation et de propagande qui sont venus apporter ce que j'appelle un contre-récit, c'est-à-dire qui ont voulu proposer une alternative à ce qui était présenté comme le récit dominant, et donc qui a instrumentalisé en quelque sorte ce désaveu et cette déception à l'égard de la démocratie et de ses institutions.
Alors vous situé au 11 septembre 2001, l'attentat contre le World Trade Center à New York, ce point de bascule vers l'obsession du complot qui s'est installé dans nos sociétés. Pourquoi ?
Oui, le 11 septembre 2001, ça a été un véritable point de bascule justement au niveau historique parce que d'abord, c'est l'entrée dans les années 2000, donc c'est aussi la massification du web, on pourrait dire, et c'est un événement traumatique sur lequel justement sont venus se greffer des récits et des contre-récits. C'est-à-dire que il y a eu à la fois toute la couleur très civilisationnelle donnée par beaucoup d'acteurs à cet événement. Rappelons-nous notamment les discours de l'administration Bush, etc., qui ont donné à cet événement une couleur très clivante et très occidentalocentrée, on pourrait dire. Et en contrepartie, il y a eu très vite, effectivement, une série d'acteurs idéologiques qui ont proposé des récits de rupture. Donc, qui ont dit en quelque sorte, vous voyez bien que l'Occident, schématiquement, se sert de cet événement pour réasseoir sa domination. Et donc, nous, on vous propose l'autre version des faits. Ça, c'est un petit peu l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le récit alternatif ou la posture alternative qui a réactivé les théories du complot. Je dis bien réactivé parce qu'il faut se rappeler que le complotisme est un phénomène ancien, évidemment, mais qui a fait son comeback, on pourrait dire, à partir de l'entrée dans les années 2000 et du 11 septembre.
Alors, une des armes du complotisme, c'est le discrédit jeté sur l'adversaire, ses arguments, sa vision du monde. Comment il se manifeste, ce discrédit ?
Ce qui est très frappant aujourd'hui dans le débat public, c'est que on s'attache moins à débattre du fond et des idées qu'à discréditer les personnes, en effet. C'est-à-dire qu'on est dans une logique, et ça c'est aussi cette séquence politique de ces 20 dernières années qui a conduit à ça, on est dans une logique d'ultra-personnalisation et de chercher tout le temps à, en quelque sorte, trouver la faute chez l'adversaire, trouver ce qui serait le signe de son incohérence, de son inconséquence. On en revient au sentiment de déception que j'évoquais juste avant. Et donc, on a l'impression qu'il n'est plus tant question d'essayer d'affiner nos idées ou d'échanger ou de débattre que de mettre à bas l'adversaire en quelque sorte ou l'adversaire politique évidemment. Et ça on le voit très fort notamment sur les réseaux sociaux, c'est un climat qui est assez paroxytique pour le moment. En fait on est dans des attaques très personnelles et qui en quelque sorte dépolitisent le débat public de manière générale.
Vous dites qu'on est face à une radicalisation donc des positions des uns et des autres et à l'incapacité d'écouter les arguments de la partie adverse. Quel rôle jouent les outils modernes de communication ? Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure dans cette propagande d'un d'un côté et de l'autre.
Et je pense qu'il favorise ça notamment, c'est l'immédiateté, on va dire, des réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait qu'on réagit à tout sur le moment et en permanence, et qu'il y a aussi sur les réseaux sociaux une très grande horizontalité qui a ses effets positifs. Quand je dis horizontalité, c'est que tout le monde est mis en quelque sorte sur un même pied d'égalité. Chacun peut troller le président de la République ou n'importe qui d'autre. Et donc, on est tout le temps dans une espèce de joute permanente où, encore une fois, on en revient à la logique du discrédit, hein. Le but est d'attaquer le camp d'en face, en quelque sorte. L'outil du web, notamment le format court, les tweets, par exemple, un peu le symbole, le symptôme d'un format très court et très direct, a favorisé une pensée quand même très binaire, très simpliste, et une pensée, on pourrait dire, campiste, entre guillemets, même si le mot n'est pas très français. C'est-à-dire que il s'agit de défendre un peu son club d'appartenance, on pourrait dire ça comme ça. Et ça favorise pas du tout la nuance, ça favorise pas non plus l'écoute. Et donc déjà qu'en France, de manière générale, bon là c'est la Belge qui parle un peu, mais déjà qu'en France on a une tendance au lyrisme, on va dire, et au débat peu nuancé, la France n'est pas très très réputée pour sa culture du compromis, mais aujourd'hui cette tendance un petit peu frontale dans le débat est encore accentuée par cet outil du web et par son format et par un climat politique général qui dépasse évidemment la France et même l'Europe.
Alors parlons-en justement, la situation en Syrie, elle vous semble particulièrement symptomatique de cette lutte entre l'information et la désinformation. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, la Syrie, ça a été vraiment un dossier très révélateur de justement des logiques de récit et de contre-récit. Il faut se rappeler qu'en 2011, en Syrie, se sont levées des manifestations contre un régime autoritaire. Ça venait en quelque sorte épouser le récit démocratique tel que nos sociétés l'ont porté quand même pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. C'est-à-dire l'idée de la lutte pour la liberté, pour la dignité, contre la tyrannie, etc. Mais malheureusement, ces événements sont tombés en 2011, quand cette ère qu'on a évoqué tout à l'heure du désaveu et du discrédit était déjà largement installé dans nos sociétés. Et donc, ces événements sont tombés quand des acteurs de propagande avaient déjà assez largement répandu l'idée que finalement, l'Occident faisait semblant de se préoccuper de la démocratie et de la liberté, en fait, pour imposer sa domination sur le plan international. Et donc, il y a eu toute une série d'acteurs de propagande, bon, particulièrement le régime Assad, évidemment, aussi la Russie de Vladimir Poutine, qui ont, encore une fois, surfé sur un certain désaveu en pour finalement défendre l'indéfendable, à savoir un régime non seulement dictatorial, mais aussi une répression féroce et des bombardements massifs. Et on a vu que ce discours de propagande et de désinformation avait pris une ampleur vraiment très très massive. Enfin, moi je l'ai vu parce que j'ai beaucoup travaillé sur la Syrie. Je vous donne juste un petit exemple, juste pour l'illustrer. Il y a récemment, on s'est rendu compte à quelques personnes qui travaillaient sur la Syrie, que Nils Melzer, qui est le responsable, disons le porte-parole sur les questions de torture et droits humains pour l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ne s'est jamais exprimé sur la Syrie depuis le début du conflit, alors que, par exemple, il défend en permanence sur Twitter quelqu'un comme Julian Assange. Alors, ça peut paraître... Pourquoi est-ce que je donne ça comme exemple? C'est que c'est symptomatique d'une posture qui, en quelque sorte, fait de l'Occident le responsable principal des oppressions et qui ne veut pas parler des oppressions extra-occidentales, qui ne veut plus en parler. Comme si parler des oppressions extra-occidentales, c'était en quelque sorte faire le jeu de la domination de l'Occident et faire le jeu des mensonges des médias et des mensonges des politiques, puisque ce discours est aussi très anti-élite, évidemment.
En conclusion, Marie Pelletier, pour sortir de l'impasse des positions très tranchées que vous décrivez, très antagonistes, il faut, vous le dites, trouver d'autres récits qui parviennent à fédérer les individus. Quoi, par exemple?
On a des bons exemples, paradoxalement, ces derniers mois et ces deux, trois dernières années, d'initiatives citoyennes qui arrivent à recréer de l'écoute mutuelle et à refaire du politique. Alors, je vais vous donner un exemple belge. Depuis deux, trois ans, en Belgique, il y a une plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés qui s'est mise en place. C'est une plateforme qui tout à fait citoyenne. Donc, le politique, enfin, en tout cas, les représentants politiques n'interviennent pas du tout dans cette initiative. Et c'est une plateforme qui consiste à héberger chez l'habitant des réfugiés jour après jour. C'est-à-dire que tous les soirs, des citoyens vont dans un parc à Bruxelles chercher des réfugiés qui n'ont pas d'abri pour la nuit et reprennent les réfugiés chez eux pour la nuit. Alors pourquoi je parle d'initiative comme ça? C'est que c'est une initiative qui, au-delà de l'aspect de générosité, évidemment, qui est présent dans ce type de geste, a recréé, a ramené aux politiques toute une série de personnes qui n'étaient pas plus spécialement politisé, qui était assez largement déçu, encore une fois, par les institutions démocratiques, et qui a retrouvé, par cet élan citoyen, une espèce d'engagement militant. Et je pense que des exemples comme ça, il y en a pas mal autour de nous. Il y a pas mal d'initiatives locales qui sont positives et qui redonnent du sens et une perspective. Parce que je pense que plus largement, derrière tout ce phénomène et toute cette séquence qu'on a évoquée, il y a un grand besoin de nouvelles perspectives politiques. C'est-à-dire qu'il y a un grand désenchantement et on a besoin de vision. Malheureusement, peu de personnes à l'heure actuelle, peu d'intellectuels notamment, offrent une véritable vision. Et je pense que c'est par l'engagement citoyen qu'elle va pouvoir revenir, sans doute.
Marie Pelletier, essayiste, je rappelle le titre de votre dernier livre, Obsession, dans les coulisses du récit complotiste, c'est aux éditions Inculte. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et merci à nos confrères à Bruxelles qui ont permis la réalisation technique de cet entretien. Nous retrouvons Monique Ngomayag à Libreville, journaliste pour AFP Factuel, le service de fast-checking de l'agence France Presse. Bonsoir Monique.
Bonsoir François et bonsoir aux auditeurs de RFI.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'une route, l'histoire de la photographie d'un tronçon qui a semé manifestement la confusion auprès des internautes. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Effectivement François, comme une route pour l'enfer. Imaginez une voie poussiéreuse, presque déserte, des trous dans le bitume et qui file droit à l'horizon, avec en gros plan quelques voitures stationnées, une chèvre et quelques militaires qui passent par là. Cette image insolite a été publiée sur des pages Facebook aux dizaines de milliers d'abonnés au Cameroun. Les auteurs utilisent la photo pour dénoncer l'état de l'axe Ngaoundéré-Garoua dans le nord du pays. Ce cliché a pourtant été pris loin du Cameroun.
Cette route n'est pas au Cameroun donc, et comment êtes-vous parvenu à cette conclusion?
Pour une photo ou une vidéo, nous utilisons d'habitude des moteurs de recherche pour retrouver la première fois qu'elles ont été utilisées sur la toile. Mais cette fois, cette méthode n'a pas été fructueuse. C'est un internaute qui nous a mis sur une piste. Dans un commentaire, en effet, il affirme qu'il s'agit de la route Tawa-Agadez, précisément Tamaya. Et un autre internaute confirme cette localisation. On a donc dû combiner les mots Tawa Agadez sur Google et nous avons trouvé un article sur le Niger. Et il est illustré avec la photo d'une route qui ressemble beaucoup à notre image. Les trous dans le bitume, les militaires, des véhicules stationnés. Et cette photo était signée du journaliste italien Giacomo Zandonini.
Est-ce que vous avez cherché à retrouver Monsieur Zandonini?
Bien sûr, nous avons suivi la piste de ce Giacomo Zandonini en visitant ses comptes Twitter et Facebook. Et figurez-vous, François, que la photo de couverture de son profil Facebook est exactement celle qui fait l'objet de notre recherche. Mais à ce stade, rien ne prouve qu'il en était l'auteur.
Et vous avez pu finalement donc le contacter pour en savoir plus?
Oui, il nous a gentiment répondu via Facebook, affirmant qu'il est bien l'auteur de cette image et qu'il s'agit de la route d'Abala dans le nord du Niger. Giacomo Zandonini nous confie également qu'il a prise lors du tournage d'un documentaire sur le phénomène des migrants au Niger. Et l'Organisation internationale des migrations qui nous confirme avoir financé ce documentaire réalisé par Marcello Merletto avec comme collaborateur Giacomo Zandonini.
Ah, donc, ce film et cette photo montrent bien l'axe d'Abalak. La photo est identifiée, la route est donc au Niger, hein, pas au Cameroun ou au Togo. Mais Monique, pourquoi cette image fait autant jaser?
Au Cameroun, par exemple, cette image détournée a fait réagir parce que la Ngaoundéré-Garoua, qu'elle est censée illustrer, a longtemps été vécue comme un calvaire par les voyageurs. Il est en réhabilitation et le gouvernement annonce la fin des travaux pour ce mois.
Ah, on aimerait bien voir des photos de la route réparée et aussi avoir l'avis des voyageurs. En tout cas, on ne peut plus utiliser n'importe quelle photo pour illustrer ces propos. Il y a des vérificateurs maintenant qui viennent rétablir la vérité. Monique Ngomayag, par exemple, à Libreville pour le service de fact-checking de l'agence France Presse. Sur RFI, merci à vous.
Vérification faite.
C'est la fin de cette édition des Dessous de l'Infox préparée par Florence Ponce et réalisée par Claude Battista. Les Dessous de l'Infox qui se mettent en vacances, mais sûrement pas l'Infox, on aura donc plein d'histoires à vous raconter à la rentrée. Prochain rendez-vous le vendredi 6 septembre.
François Bernard
vous dit bonsoir et au premier vendredi donc du mois de septembre.